Chapitre 26. Irène était assoupie dans son fauteuil à côté de la fenêtre, un exemplaire de Blow Your House Down de Pat Barker ouvert sur les genoux, lorsqu'elle fut réveillée par la pluie. Une averse soudaine et violente qui donnait l'impression que c'était des grêlons qui s'abattaient sur les dalles de l'allée. Le fracas était si assourdissant qu'elle faillit ne pas entendre les sanglots étouffés. Au début, elle crut qu'elle avait rêvé. Puis elle se leva et songea, le cœur serré, que c'était peut-être Carla, cette pauvre Carla, si désespérée la dernière fois qu'elle l'avait vue, revenue errer dans la maison voisine. Mais soudain, quelqu'un frappa à la porte. Un coup très léger, presque timide. Puis une petite voix. « Irène, vous êtes là ?» Laura se tenait sur le pas de la porte, trempée jusqu'aux os, dans un état lamentable. Sa veste était déchirée et elle avait un bleu de la taille d'une balle de tennis qui s'étalait sur tout le côté gauche du visage. Elle tremblait et sanglotait comme une petite fille.
« Laura ! Mon Dieu, entre vite !»
s'exclama Irène en tendant les bras vers la jeune femme, qui fit aussitôt un pas en arrière.
« Arrêtez !» hoqueta Laura. « Vous ne devriez pas être gentille avec moi !»«
Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin ?» « Laura, bon sang, ne reste pas sous la pluie !»
insista Irène en l'attrapant par sa manche trempée. Dans le vestibule, une fois la porte refermée, Laura s'ébroua comme un chien.
« Vous devriez me renvoyer chez moi. Vous devriez me dire d'aller me faire foutre. Mais je sais que vous ne le ferez jamais, vous êtes beaucoup trop poli et beaucoup trop gentil. »
« Effectivement, » répondit Irène d'un ton brusque. « Arrête un peu tes bêtises, tu veux. Retire ton manteau et pose-le sur le radiateur. » Il fait froid, je vais aller mettre le chauffage. Allez, va au salon, ne reste pas là à goûter sur le parquet. Je mets le chauffage et je nous prépare un thé. Tu vas tout me raconter en commençant par le début.
Quand Irène reparut avec le thé, Laura était assise en tailleur au milieu du salon, la tête dans les mains. Irène lui tendit une tasse fumante.
Allez, je t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Irène prit place dans son fauteuil. Et Laura se lança. Elle lui avoua d'abord qu'elle lui avait volé de l'argent dans son porte-monnaie, ce qu'Irène savait très bien. Elle était distraite, pas idiote. Laura lui dit ensuite qu'elle avait également volé quelque chose dans la maison voisine, qu'elle avait vu que la porte était entrouverte et qu'elle s'était emparée d'un sac qui traînait près de l'entrée. Cela, Irène l'ignorait.
« Tu as toujours ce que tu as pris ?»
demanda-t-elle sévèrement. Et Laura acquiesça.
« Alors tu vas le rendre. L'argent, c'est une chose, Laura. Je comprends bien que tu traverses une période délicate. Mais tu ne peux pas voler des choses qui ont une valeur sentimentale. Tu imagines comment je me sentirais si quelqu'un me volait la montre de William ? Qu'est-ce que tu penserais de cette personne ?»
Laura grimaça, honteuse. Puis, la tête basse, elle renversa le contenu de son sac à dos sur le sol du salon et récupéra les deux petits écrans en cuir qu'elle tendit à Irène.
« C'est pas le pire, »
poursuivit-elle, la voix à peine plus audible qu'un murmure. Irène tressaillit. Elle était terrifiée à l'idée de ce que Laura était sur le point de lui annoncer, car qu'est-ce qui pouvait être pire que voler une femme endeuillée ?
« Qu'as-tu fait, Laura ? Tu n'as fait de mal à personne, rassure-moi. »
Laura releva la tête, les yeux brillants de larmes.
« Je ne crois pas, sauf si on compte le type avec la fourchette, mais j'imagine que c'est pas à lui que vous pensiez, hein. »
Irène secoua la tête, perplexe.
« Daniel !»
lâcha Laura. Et Irène se plaqua une main sur la bouche.
« Oh non, Laura !»
La vieille femme crut que son cœur allait s'arrêter.
« Je l'ai pas tué !»
s'empressa d'ajouter Laura, désormais à genoux au pied d'Irène.
« C'est pas moi, je vous le jure. Mais j'étais là, juste avant que ça arrive. J'étais avec lui. Je vous en ai pas parlé parce que vous m'aviez dit qu'il était perturbant. »
Je n'ai pas dit qu'il était perturbant, Laura, mais qu'il était perturbé. Il me semble que je t'ai aussi recommandé de faire attention, parce que c'était un garçon perturbé qui avait eu une vie de famille compliquée. Et malgré ça,
je vous ai pas écouté. Je l'ai retrouvé et on a passé la nuit ensemble.
Laura laissa sa phrase en suspens. Dehors, la pluie s'était calmée, mais le ciel s'obscurcissait à vue d'œil, comme s'il se préparait à un deuxième assaut.
« Vous avez passé la nuit ensemble ?»
répéta Irène. Et Laura baissa la tête.
Dis donc, ne t'imagine pas que tu vas me choquer. Je suis une vieille dame, pas une gamine.
Laura acquiesça, mais continua à regarder ses pieds.
Donc, tu as passé la nuit avec lui, et j'imagine que tu n'es pas restée pour le petit déjeuner. Quand tu es partie, il allait bien.
Laura acquiesça de nouveau.
Tu n'as pas la moindre idée de ce qui s'est passé ensuite ?
Laura fit non de la tête.
Laura, et après ça, tu t'es dit que c'était une bonne idée de voler le sac de sa pauvre tante ? Bon Dieu, imagine ce que les gens penseraient si quelqu'un l'apprenait, si
quelqu'un l'a appris, murmura Laura.
Vous ?
Irène leva les yeux au ciel. Elle était furieuse.
Oh, arrête ton char. Tu te doutes bien que je ne vais pas appeler la police quand même. Et puis ça n'explique pas comment tu t'es retrouvée dans un tel état,
ajouta-t-elle en désignant le visage de la jeune femme.
Ah, ça.
Laura se redressa et poursuivit.
Bon, donc il y a une femme qui habite sur une des péniches du canal. Je la connais un peu parce qu'elle vient régulièrement à la laverie. Elle s'appelle Myriam et elle est un peu bizarre. Enfin, elle a surtout l'air bizarre, vous savez, comme si elle portait toujours trop de couches de vêtements. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, c'est elle qui a découvert Daniel, enfin le corps de Daniel, et qui a appelé la police. Et l'autre jour, elle est passée devant la laverie et j'étais un peu en crise. Rien de grave, mais vous comprenez quoi.
Irène ne comprenait pas. D'ailleurs, elle ne comprenait rien à ce que lui racontait Laura.
Donc bon, en fin de compte, je suis allée la voir sur sa péniche pour m'excuser. C'est vraiment une longue histoire pas très intéressante. Mais tout ça pour dire, quand je me suis retrouvée sur le bateau, j'ai découvert qu'elle avait la clé de mon appartement.
Elle avait ta clé ?
Oui. Vous vous souvenez, je vous ai dit que je l'avais perdue. Eh ben, c'était elle qui l'avait.
Et elle te l'a rendue ?
Demanda Irène, qui ne voyait toujours pas où voulait en venir Laura.
Non, non, elle me l'a pas rendue du tout. Elle l'avait cachée. Je l'ai trouvée en fouillant sa cabine.
Tu cherchais quelque chose à voler ?
Oui, bon, j'avoue, mais on s'en fiche de ça. Le plus important, c'est que c'est elle qui avait ma clé. Et donc ensuite, on a eu comme une... comment dire ?
Une altercation ?
Voilà.
Et elle t'a frappé ? C'est elle qui t'a fait ce gros bleu ?
Laura secoua la tête.
On s'est un peu poussé. J'essayais de sortir et j'ai trébuché. Je suis tombée.
Tu ne penses pas qu'il faudrait prévenir la police, Laura ? Je veux dire, si cette femme a ta clé, alors...
Oh non, c'est bon. Je l'ai récupérée.
Laura plongea la main dans la poche de son jean et en sortit la fameuse clé, ainsi qu'une boucle d'oreille dorée qu'elle s'empressa de rempocher.
« J'ai la clé, et j'ai aussi ça !»
annonça-t-elle en ramassant sur le tas d'affaires qu'elle avait déversé au milieu du salon un manuscrit.
« Elle m'a donné ce truc. Avant qu'on ait notre... comment vous avez dit déjà ? Notre altercation, elle m'a donné ça.
Ses mémoires, précisa-t-elle en mimant les guillemets.
Elle m'a proposé de les lire. Évidemment, je l'ouvrirai jamais, mais je me suis dit que ça pourrait vous plaire.
Il y a un crime dedans.
Apparemment, elle a été kidnappée par un fou quand elle était jeune ou un truc dans le genre.
Eh bien, s'exclama Irène en lui prenant la liasse des mains. Quelle histoire !
Soudain, il y eut un éclair aveuglant, accompagné d'un violent coup de tonnerre, et toutes les deux rentrèrent instinctivement la tête dans les épaules.
Putain !
Jura Laura.
Comme tu dis,
opina Irène.
Tu sais ce que tu devrais faire ? Tu vas monter à l'étage, retirer tes vêtements mouillés, les accrocher sur l'étendoir et te faire couler un bon bain bien chaud. Tu n'as rien d'autre de prévu cet après-midi, si ?
Laura sourit, secoua la tête et ferma les yeux pour ne pas pleurer.
Ça me plairait beaucoup.
Sous le fracas de la seconde averse, Irène entendit Laura chanter et se fit la réflexion qu'elle avait une voix plus douce et mélodieuse qu'elle ne l'aurait imaginée. Laura n'était visiblement pas pressée, car elle ne redescendit qu'une heure plus tard, enveloppée dans une vieille robe de chambre rose qui n'avait pas quitté le placard de la salle de bain depuis une décennie. En voyant ce petit bout de femme vêtue de son vieux peignoir, Irène se sentit envahie par une émotion nouvelle, un sentiment presque maternel, si c'était bien de cela qu'il s'agissait. Elle n'en fit pas part à Laura, de peur de la mettre dans l'embarras. Au lieu de quoi, elle brandit le manuscrit que lui avait prêté la jeune femme.
« Tu veux que je te dise ? Il est très étrange, ce livre. Je l'ai parcouru rapidement et... »«
Vous l'avez pas déjà lu, quand même ?
Si ? demanda Laura, avant de s'étendre sur le canapé et de disposer les coussins sous sa tête.
Non, non, je l'ai seulement parcouru. Ce n'est pas mal écrit, d'ailleurs. Un peu tarabiscoté par moments, peut-être. Mais ce que j'ai trouvé étrange, c'est que certains passages m'ont semblé très familiers. Même si, je le reconnais, l'idée de quelqu'un qui cherche à échapper à un tueur en série n'est pas des plus originales. Sauf que...
Elle ne termina pas sa phrase et tourna la tête en direction de la bibliothèque.
« Il y a quelque chose qui me chiffonne et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. »
Laura ferma les yeux, se mit en boule et tira la robe de chambre d'Irène au-dessus de ses genoux.
« Oh, c'est vraiment le paradis !» murmura-t'elle. « Je suis tellement crevée. Je pourrais passer tout le reste de ma vie ici. »
« Si tu veux rester un peu, ça ne me pose aucun problème. Tu peux même dormir ici cette nuit si tu veux. Je vais te préparer le lit dans la chambre d'amis. »
Un sourire apparut sur les lèvres de Laura, et plutôt que de répondre à la proposition d'Irène, elle reprit
« Je me sens toujours en sécurité quand je suis chez vous, vous savez. Comme si ici, rien ne pouvait m'arriver.
Mais il ne va rien t'arriver, Laura. Pourquoi penses-tu une chose pareille ?»
Il finit toujours par m'arriver quelque chose,
répondit Laura en remontant le col du peignoir au-dessus de son menton. Irène profita de ce que Laura dormait pour lire. Il y avait décidément beaucoup de scènes qui lui semblaient familières dans ce manuscrit. Deux filles qui faisaient du stop par une belle journée ensoleillée, une rencontre fortuite, un basculement dans la violence dans une ferme isolée, une des filles qui se coupait en brisant un carreau. En même temps, ne voyait-on pas ce genre de cliché dans tous les films d'horreur ? Mais surtout, il y avait la chanson. Ce refrain qui passait à la radio et que chantait un des personnages, s'il s'agissait de mémoire, pouvait-on vraiment parler de personnage ? Lui disait vraiment quelque chose. Laura remua sur le canapé. Elle se retourna pour se retrouver dos à Irène, et bientôt elle se mit à ronfler doucement. Une fois de plus, Irène ressentit la bouffée d'affection qu'elle avait éprouvée quelques minutes plus tôt. Un pincement à l'estomac qui lui semblait maternel, même si, n'ayant jamais été mère, elle ne pouvait pas en être sûre. Ce dont elle était certaine, en revanche, c'était qu'elle avait besoin de protéger cette fille, tout comme elle avait cherché à protéger cette pauvre Angela. Elle jeta un œil sur les piles de livres qui avaient appartenu à son amie et qu'elle n'avait toujours pas fini de trier. Pourtant, cela faisait plusieurs semaines qu'ils encombraient son salon. Peut-être pourrait-elle demander à Laura d'en déposer quelques-uns à la boutique solidaire qui se trouvait sur Upper Street. C'est alors qu'elle le vit, au sommet de la pile à donner, Celle qui s'est enfuie, de Caroline McFarlane. Le roman policier de Theo Myerson, il était là depuis le début à la narguer. Elle se leva de son fauteuil, ramassa le livre, un grand format en parfait état, puis elle le retourna pour lire les quelques phrases inscrites en lettres rouges au verso. En revenant de l'école, une fille et son amie se font kidnapper. La fille parvient à s'en tirer, pas son amie. Cette fille est une victime. Cette fille est en deuil. Cette fille est détruite. Cette fille a soif de vengeance, mais serait-elle aussi coupable ? Cette fille, c'est celle qui s'est enfuie. Irène leva les yeux au ciel. Elle avait lu le roman lorsqu'il était sorti et l'avait trouvé particulièrement mauvais. Son avis n'avait pas changé. De retour dans son fauteuil, elle ouvrit le livre, tourna les pages en quête du passage dont elle était sûre de se souvenir, une histoire de chanson, des bribes de paroles. C'était là, quelque part, mais tellement difficile à trouver dans ce roman qui sautait sans cesse du coq à l'âne, où on changeait de point de vue à tout bout de champ, pour passer de celui de la victime à celui du criminel, sans aucune attention pour la chronologie. Très déroutant, et de l'avis d'Irène, très agaçant. Elle se souvenait de la fois où elle avait entendu à la radio Myerson, dont l'identité avait fini par être dévoilée, défendre son roman en expliquant qu'il avait voulu explorer les notions de culpabilité et de responsabilité. Se jouer des préjugés des lecteurs, ce genre d'ineptie.
Expérimenter pour expérimenter, à quoi cela rimait-il ?
De l'avis d'Irène, rien ne valait les romans policiers traditionnels où le bien triomphait du mal. Et tant pis si dans la réalité les choses se passaient rarement ainsi.
Irène fut interrompue dans sa lecture par un étrange vrombissement. Elle leva la tête et vit une lumière clignoter sur le téléphone de Laura. L'appareil se tut, puis, quelques instants plus tard, se remit à vibrer. Sur le canapé, Laura remua.
« Oh, c'est le mien !»
grogna-t-elle. Elle voulut se retourner, mais le canapé était étroit et elle tomba par terre.
« Et merde !»
grommela-t-elle en rampant sur la moquette pour attraper son portable.
« J'étais complètement endormie. »
Elle plissa les yeux pour regarder l'écran.
« Allô ? Qui ça ? Ah, ouais, désolée.
Comment ?
Non, je suis pas chez moi, là. Je suis chez une amie. Je peux... Mais je... Mais... Quoi ?
Elle ferma les paupières, l'espace d'une seconde.
« Je suis vraiment obligée ?»
Elle raccrocha et poussa un profond soupir avant de se tourner vers Irène, le visage encore ensommeillé. « Je vous avais prévenu, » souffla-t-elle en esquissant un sourire qui ne parvint pas à masquer sa voix étranglée. « Je vous avais bien dit qu'il finirait toujours par m'arriver quelque chose. » Elle se leva péniblement.
« C'était la police, » annonça-t-elle. « Il faut que j'y aille. »
Laura se prépara en balayant les inquiétudes d'Irène.
« Vous en faites pas pour moi !»
déclara-t-elle en montant les marches 4 à 4 pour récupérer ses vêtements.
« Vous en faites pas pour moi !»
répéta-t-elle lorsqu'elle fut redescendue.
« C'est au sujet de Daniel ?»
demanda Irène, et Laura grimaça.
« Évidemment, parmi les types avec qui j'ai couché, il n'y en a pas 50 qui se sont fait assassiner. Mais je suis un témoin, c'est tout. » La dernière personne à l'avoir vu vivant, vous comprenez ? Vous en faites pas pour moi.
Irène accompagna Laura jusqu'à la porte, l'aida à remettre son manteau trempé et lui demanda si elle avait un avocat. Laura éclata de rire et s'éloigna d'un pas un peu plus claudiquant que d'habitude avant de se retourner. Elle arborait un grand sourire et toute trace de larmes avait disparu de son visage.
À votre avis ?
Alors qu'elle glissait 2 tranches de pain dans le grille-pain, Irène songea que William aurait beaucoup apprécié Laura. Il l'aurait trouvé drôle. Il avait eu plus de mal avec Angela. Il ne s'était jamais montré désagréable pour autant, mais il se méfiait.
« Elle est au bord du précipice, cette femme, » disait-il. « Et le jour où elle tombera, j'espère que tu ne seras pas à côté d'elle, parce qu'elle s'accrochera à toi et t'entraînera dans sa chute. »
William n'avait jamais vraiment eu l'occasion de connaître Angela, de se rendre compte qu'elle était profondément gentille. Une fois ses tranches de pain beurrées, Irène s'assit à la table de la cuisine avec le manuscrit ouvert d'un côté et le roman de Théo de l'autre, afin de les comparer.
« Alors, cette chanson ?»
marmonna-t-elle en feuilletant le livre.
« Cette Tiens !»
À la toute fin du roman, coincée dans le rabat de la couverture, elle découvrit une enveloppe adressée à Théo Meyerson. Étrange, étant donné que ce livre avait appartenu à Angela. Dans l'enveloppe, il y avait une feuille A4, visiblement arrachée à un carnet de croquis, sur laquelle figurait un dessin d'une femme endormie sur un lit, les couvertures écartées, afin de révéler sa poitrine dénudée. En bas de la page, une inscription en pattes de mouche. « Salut-toi, j'ai fait quelques croquis ces derniers temps, et je me suis dit que ça pourrait te plaire. » Le mot n'était pas signé, mais le dessin ressemblait beaucoup au style de Daniel. Quant à l'identité du modèle, elle ne faisait aucun doute. C'était Carla Meyerson.